9. Détermination plus nette et positive du soin de l'État pour la sûreté. Développement de l'idée de la sûreté. Chapitre 9, 2. Essai sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand par Henri Chrétien en 1867. J'ai terminé les parties les plus importantes et les plus difficiles de la présente analyse. Comme j'approche de la solution complète du problème proposé, il est nécessaire de jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'ensemble développé jusqu'ici. D'abord, on a écarté le soin de l'État de tous les objets qui ne touchent pas à la sûreté, tant extérieure qu'intérieure, des citoyens. Ensuite, on a présenté cette sûreté comme l'objet réel de l'action de l'État. Et enfin, on a posé le principe que, pour l'obtenir et la conserver, il ne faut chercher ni à agir sur les mœurs et le caractère de la nation même, ni à lui donner ou à lui ravir une direction déterminée. On pourrait donc, dans une certaine mesure, croire qu'il a été complètement répondu à notre question de savoir quelle borne l'État doit donner à son action. En effet, cette action a été limitée au maintien de la sûreté. Quant aux moyens d'arriver à ce résultat, on a permis à l'État, d'une manière plus nette encore, de n'employer que ce qui ne tende ni à modeler la nation suivant les buts de l'État, ni surtout à l'amener directement à ses buts. Si cette définition est, pour ainsi dire, entièrement négative, ce qui reste encore après l'élimination se montre cependant assez clairement. Ainsi, l'État se bornera à toucher aux actes qui empiètent immédiatement et directement sur le droit d'autrui, à décider le droit litigieux, à rétablir le droit violé et à punir le violateur. Mais l'idée de la sûreté, dont on s'est jusqu'ici borné à dire qu'on parle de la sûreté contre les ennemis extérieurs, et relativement aux griefs des concitoyens les uns envers les autres, cette idée est trop large et trop complexe pour ne pas exiger une exposition plus exacte. Car autant sont diverses les nuances qui séparent le Conseil, qui cherche simplement à persuader de l'ordre impératif, et l'ordre impératif de la contrainte despotique, et autant sont divers et nombreux les degrés de l'illégitimité et de l'injustice, depuis l'acte accompli dans les limites du droit rigoureux, mais pouvant nuire à autrui, jusqu'à l'acte qui, sans outrepasser davantage ses limites, peut aisément troubler, ou trouble toujours autrui dans la jouissance de sa propriété, et depuis cet acte aussi jusqu'à la véritable usurpation de la propriété d'autrui, autant est diverse l'étendue de la notion de sûreté, puisqu'on peut y comprendre la sûreté contre tel ou tel degré de contrainte, ou contre tel ou tel acte attaquant le droit, de près ou de loin. Mais cette étendue est d'une importance capitale. Si elle est exagérée, ou si elle est trop restreinte, alors, de quelques mots que l'on se serve, toutes les limites sont confondues. Sans une détermination exacte de cette étendue, on ne saurait songer à poser justement ces bornes. Ensuite, il faudrait nécessairement exposer et examiner en détail les moyens dont l'État doit ou ne doit pas se servir. Car même si le travail de l'État tendant à la réformation des mœurs ne paraît pas recommandable, ainsi qu'on l'a soutenu dans ce qui précède, il reste encore au jeu de l'action de l'État un champ beaucoup trop indéterminé. Par exemple, on a encore très peu éclairci les questions de savoir combien les lois restrictives dictées par l'État s'écartent de l'acte qui porte directement atteinte aux droits d'autrui et dans quelle mesure l'État doit empêcher les véritables infractions en coupant les sources, non dans le caractère des citoyens, mais dans les occasions que fournissent les faits. Toutefois, on peut sur ce point aller beaucoup trop loin, et ceci au prix de grands inconvénients, comme le montre déjà le fait que plusieurs bons esprits ont été poussés à rendre l'État responsable en tout du bien-être des citoyens, précisément par leurs préoccupations en faveur de la liberté. C'est qu'ils ont pensé que ce point de vue plus général protégerait l'activité non entravée des forces. Ces considérations m'obligent d'avouer que jusqu'ici, je n'ai éliminé que les matières capitales, celles qui sont en effet assez visiblement en dehors des limites de l'action de l'État, plutôt que je n'ai déterminé ces limites précises là, où il y a place pour le doute ou la contestation. Voilà ce qui me reste à faire maintenant. Et même si je ne devais ne pas y réussir entièrement, je crois au moins avoir l'obligation d'essayer de faire connaître, de la manière la plus nette et la plus complète, qu'il sera possible, les raisons de cet échec. Or dans tous les cas, j'espère pouvoir être bref, car tous les principes dont j'aurai besoin pour remplir cette tâche, je les ai déjà examinés et établis dans ce qui précède, autant du moins que mes forces m'ont permis de le faire. Je dis que les citoyens jouissent de la sûreté dans l'État, quand ils ne sont pas troublés par des usurpations étrangères, dans l'exercice des droits qui leur appartiennent, que ces droits traitent à leur personne ou à leur propriété. Par conséquent, la sûreté, c'est l'assurance de la liberté légitime, si l'on peut parler ainsi sans être taxé d'un excès de concision, et par suite d'obscurité. Cette sûreté ne sera donc pas troublée par toutes ces actions, qui empêchent l'homme de faire agir ses facultés, ou de jouir de son bien, mais seulement par celles qui l'en empêchent illégitimement. Cette définition, comme celle que j'ai donnée plus haut, n'a pas été ajoutée et choisie arbitrairement par moi. Elles découlent toutes deux directement des considérations développées ci-dessus. Ce n'est qu'en donnant cette signification au mot sûreté que ceci peut s'appliquer. Car il n'y a que les véritables violations du droit, qui appellent l'intervention d'une puissance autre que celle dont dispose l'individu. Seul, l'empêchement de ces violations profite réellement au vrai progrès de l'homme, tandis que tout autre travail de l'État met des obstacles sur son chemin. Seul, il découle du principe infaillible de la nécessité, car tout autre empêchement ne se fonde que sur le principe incertain d'une utilité calculée d'après des vraisemblances trompeuses. Ce dont la sûreté doit être maintenue, ce sont d'un côté tous les citoyens, et cela avec une parfaite égalité. D'un autre côté, c'est l'État lui-même. La sûreté de l'État a un objet d'une étendue plus vaste, ou plus étroite suivant qu'on élargit ou qu'on resserre ses droits. Et par suite, leur délimitation dépend de la manière dont on détermine le but de la sûreté. D'après ce que j'ai dit jusqu'ici, l'État ne devrait pouvoir réclamer la sûreté que pour le pouvoir qui lui est accordé et les biens qui lui ont été concédés. Mais il ne pourrait pas, dans l'intérêt de la sûreté, entraver les actions par lesquelles un citoyen lui soustrait sa personne et sa propriété, cela sans porter atteinte aux droits proprement dits, et en supposant par suite qu'il ne se trouve pas, avec l'État, dans un rapport personnel et temporaire, comme par exemple en temps de guerre. Car l'union de l'État n'est qu'un moyen subordonné auquel il ne faut pas sacrifier le véritable but qui est l'homme. Autrement, on en arriverait à cette contradiction que la foule aurait le droit de sacrifier l'individu, alors que celui-ci ne serait pas obligé de s'offrir en sacrifice. Enfin, d'après les principes qui ont été exposés, l'État ne doit pas s'occuper du bien-être des citoyens. Pour la conservation de leur bonheur, rien ne peut être nécessaire de ce qui détruit la liberté, et par suite la sûreté. La sûreté est troublée soit par des actions qui en elles-mêmes portent atteinte aux droits d'autrui, soit par des actions dont les conséquences seulement sont inquiétantes. L'État doit s'efforcer d'empêcher ces deux espèces d'actes, mais avec des différences qui vont devenir l'objet de notre étude. Si ces actes sont une fois commis, il doit chercher à les rendre autant que possible non préjudiciables, en ordonnant la juste compensation du dommage causé, et à les rendre plus rares dans l'avenir, en les punissant. C'est de là que naissent les lois de police, les lois civiles et les lois criminelles, pour me servir de la terminologie en usage. Mais il se présente ici un autre objet qui, à cause de sa nature propre, mérite d'être traité d'une manière tout à fait spéciale. Car il existe une classe de citoyens auxquels ne s'appliquent avec de nombreuses modifications les principes exposés ci-dessus, car ces principes supposent toujours l'homme dans la plénitude de ses facultés habituelles. Je veux parler de ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, et de ce que la démence ou l'imbécilité prive de l'usage de leurs facultés humaines. L'État doit également prendre soin de leur sûreté. Et leur situation, comme on peut l'imaginer, exige évidemment une attention spéciale. Il nous faudra donc encore étudier le rapport suivant, lequel l'État a, comme on dit d'habitude, la tutelle supérieure de tout ce que l'on ne peut pas déclarer majeur. Je crois ainsi avoir tracé la ligne de démarcation qui entoure tous les objets vers lesquels l'État doit tourner son attention. Quant à la sûreté contre les ennemis extérieurs, après ce qui a été dit, je crois inutile d'ajouter quoi que ce soit. Bien, loin de vouloir pénétrer profondément dans toutes les matières vastes et compliquées ici nommées, je me contenterai pour chacune d'elles de développer aussi brièvement que possible les grands principes qui la dominent, en tant qu'ils se rattachent à notre étude. Seulement quand cela sera fait, nous pourrons dire que nous aurons accompli notre tentative de résoudre entièrement la question proposée et d'imposer, de tous les côtés, à l'action de l'État les bornes appropriées. C'était détermination plus nette et positive du soin de l'État pour la sûreté. Développement de l'idée de la sûreté. Fin du chapitre 9.